quelqu'un que je connais un peu, mon frère Hugo, qui apporte le message de la parole ce matin. Avez-vous vu l'annonce cette semaine? Est-ce qu'on a l'acétate? Si vous voulez nous envoyer ça en avant, notre graphiste s'est lâché lousse cette semaine. Ne demandez pas ce que votre église peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre église. C'est bon? J'espère que vous savez d'où ça vient, la citation. On a joué à quelque chose là. Alors, Hugo va apporter un message sur le service de Dieu et ça s'inscrit dans notre série. D'accord? Ça va entrer dans la série. Maintenant, juste deux mots sur Hugo. Hugo, ça fait combien de temps que tu as quitté Longueuil? Cinq ans. Alors, voilà 5 ans, il a quitté Longueuil pour aller avec Lynn et toute la famille et d'autres serviteurs de Dieu, d'autres chrétiens là-bas, implanter une église à Rivière-du-Loup. C'est une belle assemblée. J'ai le privilège d'amener le message de la parole régulièrement là-bas et c'est vraiment une belle église et c'est une joie. Et Hugo est un homme qui aime la parole de Dieu, mais qui avant tout aime Jésus-Christ. Et il aime trouver Christ dans la parole de Dieu. Et c'est une des choses que j'apprécie de son ministère d'enseignement. Maintenant, j'aimerais ça faire quelque chose, étant donné que c'est mon frère. Hein? Hugo Etier, c'est mon frère, pour ceux qui ne le savaient pas. J'aimerais ça juste pour les jeunes. Je m'adresse aux jeunes ce matin. Le message va s'adresser à toute l'assemblée, mais j'aimerais ça m'adresser aux jeunes. Lorsqu'Hugo va être en train de prêcher en avant, j'aimerais ça que vous réalisiez ou que vous songiez au fait que les gars qui sont ici en avant sont faits exactement de la même chair que vous. Moi, j'ai joué avec une Batmobile avec Hugo, vous comprenez? Joué avec des Legos avec Hugo. Et les gars qui se retrouvent en avant, qui prêchent la parole, que ce soit Alexandre, que ce soit Hugo, que ce soit moi. La semaine dernière, on avait Jean-Philippe Lapierre qui était ici, qui a servi ici. C'est notre joie de les voir entrer dans l'œuvre. Mais ces gens-là, on est fait de la même chair que vous. Et je le dis autant pour les gars que pour les filles, rêvez de ce que Dieu peut faire à travers vous. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui voudrait être pasteur, peut-être que vous trouvez que c'est un travail ou un appel difficile, mais je vous dis, c'est glorieux de pouvoir servir le Seigneur. Et parce que j'ai connu Hugo dans son enfance, je peux vous dire qu'on est tous faits pareil. Mais Dieu saisit notre cœur et nous transforme à travers les années et il se sert de nous et c'est un privilège extraordinaire. Alors, pendant qu'il va prêcher la parole, rêvez de ce que Dieu peut faire dans votre vie. Et peut-être que Dieu va se servir de vous comme ouvrier, comme pasteur, comme implanteur, comme missionnaire. Peut-être que Dieu va vous appeler à aller sur le champ missionnaire. Peut-être que Dieu va vous appeler à faire une œuvre ici, à conduire des âmes à Christ. Soyez attentifs à ça pendant que vous écoutez le message de la parole. Hugo, si tu veux venir, vous apporter le message de Dieu. Merci.
Bonjour, ça va bien? Alors, quand je viens ici, je suis toujours très excité. Alors, vous allez pardonner peut-être des fois une surexcitation. Ceux qui gardent nos enfants, vous les réalisez peut-être. Là. Alors, quand nos enfants viennent, ils sont excités. Puis, merci aux moniteurs qui prennent soin d'eux. Vous êtes patients avec eux. Ils sont contents de revoir les amis de Longueuil. Pour moi, c'est comme revenir à la maison. C'est ça que je disais à voyons. Marie-André? C'est ça, Marie-André de Linois? OK, j'avais un blanc. Là. Ça c'est l'excitation. Alors, j'ai manqué une superbe fête la semaine passée, ça a l'air? Ah, mon ami, j'ai eu tout un dilemme quand Danny m'a invité à venir pour le 3 octobre. C'était déjà prévu que je vienne le 10. Puis là, j'ai eu un gros dilemme, puis je me disais, si je viens le 3, j'arrive, je rentre ici à, je sais pas moi, à 10 heures pour faire la surprise, puis je repars à 2 heures, puis je verrai pas Yannick la fin de semaine. Mais si je viens la semaine qui suit, je serai pas du party, mais je vais voir Yannick plusieurs heures. Alors, on a décidé de venir cette semaine. J'ai écrit un petit mot pour toi, Yannick. Alors, Danny m'avait demandé, envoie une vidéo. Je suis pas encore tellement comme habitué à ça, là. Je fais des cours avec Skype et des choses comme ça, mais en tout cas, je n'étais comme pas à l'aise. Fait que je t'ai écrit quelque chose, ça se peut que je sois très émotif, c'est mon frère. Alors, cher Yannick, j'ai manqué cette grande fête la semaine passée, mais j'aimerais saisir l'occasion pour t'honorer aujourd'hui. Quelques jours après tes 40 ans, que dire à un grand frère comme toi? D'abord et avant tout, Tu es mon ami de toujours. Je vais avoir 10 minutes de plus ce matin. Je suis venu au monde, tu étais déjà là. Un ami pour moi, mon frère. Que de moments formidables nous avons passés ensemble. À jouer et rêver de conquête avec nos G.I. Joe, nos Fisher-Price, nos figurines de Star Wars, etc. Puis nous avons passé ensemble par quelques années tumultueuses suite au divorce et à une adolescence plutôt confuse et intoxiquée par un monde de vanité. Quelques années à se distancer, mais Christ nous a réunis pour toujours. Comme Paul le dit, nous nous sommes retrouvés comme des frères en Christ, scellant à toujours notre destinée dans la gloire de Dieu. Dès ma conversion, tu es devenu un modèle pour moi. Tu m'as accompagné et formé pour l'œuvre du ministère. Par ton ministère de formateur, de pasteur, Dieu m'a envoyé travailler en parallèle avec toi à l'expansion du royaume à Rivière-du-Loup. Yannick, tu es un homme merveilleux, un frère unique et incomparable. Christ est ta vie. Tu m'inspires par ta consécration, ta sagesse, ton intelligence et ta passion. Je t'aime, mon frère. Merci. C'est bon. Des bonnes émotions, hein, ça? Alors, à Rivière-du-Loup, il se passe des belles choses. On vit 5 années de... c'est presque un rêve depuis 5 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on est parti pour Rivière-du-Loup, psaume 126, alors que l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est ce qu'Israël dit. Nous étions comme ceux qui font un rêve. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et Israël pouvait dire, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et depuis 5 ans, on expérimente la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. L'Église grandit en nombre. Je dirais depuis 1 an, de façon un peu modérée, on met beaucoup d'enfants sur un projet de bâtiment qui est extrêmement intéressant, qui par la grâce de Dieu va devenir un plus grand bateau pour mettre plus de poissons, parce qu'on va à la pêche à tous les jours à Rivière-du-Loup, et on va pêcher les âmes, pêcher les hommes, et on désire avoir un plus grand bateau pour jouir encore et voir cette pêche miraculeuse que le Seigneur veut faire. Une chose qui nous motive beaucoup à l'Église depuis un certain temps, c'est de voir la croissance spirituelle. Alors, l'Église s'affermit de plus en plus. Quand je viens dans une église comme Longueuil, j'ai participé à une activité avec Rosemont puis les églises filles de Rosemont. Je vois des églises qui sont établies depuis longtemps. Et il y a comme vraiment un tronc fort de membres, de fidélité, de saine doctrine. Et à Rivière-du-Loup, après 5 ans, on commence à avoir des fruits de ça. Une église qui s'affermit de plus en plus, qui va devenir, par la grâce de Dieu, vraiment un pilier dans la région là-bas, un centre de formation, une base missionnaire, un phare, un flambeau dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Gaspésie. Alors, on a un projet de bâtiment. On est très, très encouragés. Alors, on a près de 250 000 $ en argent d'amasser avec des dons particuliers. Puis, on prévoit jouer aussi du prêt de 100 000 $ de l'Association des églises baptistes évangéliques avec un taux vraiment avantageux. Il nous manque encore 75 à 100 000 $ Alors, si quelqu'un veut faire un chèque ce matin, on va l'apprécier. Et on a besoin aussi d'un chargé de projet. Alors, si vous voulez prier pour ça, priez pour que Dieu continue à faire croître l'Église. On prie pour des conversions massives à Rivière-du-Loup. On veut être débordé par les disciples à suivre, à baptiser, à enseigner. On veut être débordé. On veut être fatigué d'une bonne fatigue spirituelle. Priez aussi pour que Dieu pourvoie pour les 75 à 100 000 $ manquants pour réaliser le projet. Priez aussi pour un chargé de projet. On cherche un frère dans la foi qui aurait à cœur de devenir un peu comme le contremaître, l'artisan en chef de ce beau projet-là de construction-rénovation. Et aussi, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Alors, je fais un appel à tous. Je pense que Danny, je n'ai parlé avec Yannick, va probablement vous revenir là-dessus au printemps ou avant, d'avoir une équipe peut-être de l'Église de Longueuil qui va venir nous aider pendant une fin de semaine, une semaine, peut-être pour de la toiture, des spécialistes ici en toiture, peut-être pour d'autres choses. Alors, on passe la commande, puis on est devant le Seigneur, puis on attend sa direction. Alors, priez, s'il vous plaît, pour ce beau projet-là. Alors, je me considère privilégié de pouvoir m'inscrire dans cette série qu'Yannick est en train de faire, le chrétien upgradé. Et j'aime cette expression, j'aimerais la dire en français. Alors, à Rivière-du-Loup, les anglicismes sont moins populaires. On dit upgradé ou Word ou Walmart ou Tim Hortons. Mais je veux dire le chrétien mis à niveau. Alors, le Seigneur est en train de faire une mise à niveau incroyable dans chacune de vos vies si vous avez donné votre vie au Seigneur. Et l'intention de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Christ. L'intention numéro un, le projet premier de Dieu dans ta vie, si tu as donné ta vie à Christ, c'est de te rendre conforme à l'image de ton Fils. C'est pas que ton compte de banque soit toujours plein. C'est pas que tu aies une santé à toute épreuve. C'est pas que ton mari ou ton épouse soit parfait ou que tes enfants soient des bons petits chrétiens ou que ton pasteur, tes pasteurs, tes diacres, tes leaders soient parfaits. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est de te rendre conforme à Jésus-Christ. Et il va prendre tout ce qui est alentour de toi, Romains 8, 28, qui va travailler comme en synergie pour te rendre conforme à l'image de Jésus. Alors, le chrétien upgradé, c'est peut-être des termes contemporains, mais c'est certainement une réalité éternelle. Le moyen que Dieu utilise pour atteindre ce but, c'est Jésus-Christ, le médiateur, le médium, celui qui nous emmène dans cette transformation, c'est Jésus. Mais l'environnement de Dieu dans lequel Dieu te place pour atteindre cette mise à niveau parfaite, c'est l'Église locale. Dieu se sert de l'Église locale pour te mettre à niveau de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Vous avez lu avec Yannick lors de la première session, Éphésiens 4, 11 à 16, je vais le lire rapidement. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formé un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Je connais l'Église de Longueuil depuis un certain temps et je peux vous dire que même de l'extérieur, après 5 ans, je peux répéter encore, Dieu a donné à cette Église des leaders qui ont compris cette mission, qui désirent l'assumer avec passion et dévouement. Est-ce qu'on peut demander aux anciens de se lever, s'il vous plaît? Yannick, Michel, Robert, puis Alex aussi. Alors, regardez ces hommes, s'il vous plaît, et suivez-les. Suivez-les. Dieu vous les a donnés, c'est 4 cadeaux du ciel. Vous pouvez vous asseoir, les frères. 4 cadeaux du ciel pour travailler votre perfectionnement. Suivez ces hommes. Paul a pu dire en Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Si Dieu a emmené ces 4 hommes à assumer cette grande responsabilité, c'est parce que Dieu a dit que c'est des gars qui imitent Jésus. C'est 4 gars qui aiment Jésus. Alors, comme Paul a dit, regardez à eux, puis imitez-les. Imitez-les. Soyons pas timides. Imitez les modèles qui sont parmi vous. Et il y en a sûrement un paquet d'autres aussi. Et j'ai appris que dernièrement, vous avez engagé un gars. Alexandre Marquis. Alors, Alex, c'est mon ami, on s'appelle Big, c'est notre surnom, on s'appelle Big. On n'est pas tellement gros les deux, mais c'est notre surnom de joueur de balle molle. Hey, Big! Puis, mais je suis tellement content de savoir que depuis un mois maintenant environ, Alex, un mois et quelques, là, Alex a vraiment pris la responsabilité de vous conduire comme Église dans la mission, dans l'évangélisation. Et moi, probablement que je sous-estimais ce que Dieu a fait à travers ma vie pendant les quelques années que j'ai eu cette responsabilité à Longueuil. Mais plusieurs fois après ça, les gens m'ont dit « Ah, Hugo, on appréciait ton ministère pasteur évangéliste, on l'appréciait beaucoup, puis je me donnais corps et âme dans ça, puis je voyais des belles choses, les fêtes de la moisson, des témoignages, des conversions, de la formation. » Et là, je suis content de savoir qu'Alexandre relève ce défi-là. Et je peux vous dire, en toute humilité, je suis convaincu qu'Alex va faire un meilleur job que moi. Je suis convaincu de ça. Et vraiment, je prie pour toi, Alex, que Dieu serve de toi pour vraiment conduire l'Église ici dans la mission et que cette Église se remplisse. Que le bateau soit trop petit, là, dans 3-4 ans, que vous deviez défaire cette belle pièce-là, ou je ne sais pas trop, mais que ce soit trop petit. Que ce soit trop petit, rêvons grand, on a un grand Dieu et Dieu vous donne un grand homme pour vous conduire dans cette grande mission. Prions ensemble avant d'aller dans la parole de Dieu. Seigneur, on veut vraiment te bénir ce matin, on veut vraiment t'adorer. Et ce matin, en cette fête religieuse sur laquelle on capitalise, Seigneur, on profite de cette date inscrite au calendrier pour te rendre grâce. On veut premièrement te rendre grâce pour ton don merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque, c'est toi ce matin, quiconque croit en lui, ne périsse point dans le feu éternel, loin de la face de Dieu, mais qu'il ait la vie abondante, une vie qui ne finit pas, une vie qui est constamment satisfaisante. Ô Seigneur, gloire à ton nom pour ton don merveilleux. Et Seigneur, ce matin, on aimerait humblement te rencontrer. On aimerait, Seigneur, que tu viennes parler à nos cœurs ce matin. On aimerait surtout avoir un esprit bien ouvert, un cœur tendre, pas un cœur rebelle, sclérosé par l'orgueil, l'incrédulité. Un cœur de chair, c'est ça que tu nous as donné, Seigneur. Alors, on te le présente ce matin. Et Seigneur, viens opérer ce que tu as opéré dans ces cœurs attendris, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, et reçois l'offrande de nos vies. Reçois l'offrande de nos vies, Seigneur. Amen. Tournez avec moi dans Romains 12, s'il vous plaît. Juste saluer spécialement Jean-François Bouchard et Geneviève. Alors, c'est des frères et sœurs de Rivière-du-Loup. Alors, ça tombe bien. Ce matin, ils venaient voir la famille, Carole, Jean-Paul. Puis, sont ensemble avec nous. Sont avec nous ce matin. On est privilégiés. Romains 12, versets 1 et 2. Quel beau passage. Si tu es dans la foi depuis quelque temps, tu connais ce beau passage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow! Quel beau passage! Et le Seigneur fait bien les choses, c'est l'action de grâce ce matin. Pourquoi pas faire de cette journée une journée où on va offrir à nouveau, d'une façon significative, nos corps au Seigneur? Le Seigneur veut mon temps, le Seigneur veut mon argent, mais il veut tout mon être. Il veut tout mon être, il veut mon cœur, il veut mon âme, mon corps. Et Paul exhorte les chrétiens de Rome, après 11 chapitres de festin spirituel, 11 chapitres à exposer en long et en large l'Évangile de Jésus-Christ. Après avoir exposé pendant 11 chapitres les compassions de Dieu, Paul dit aux chrétiens de Rome, « Ainsi donc, je vous exhorte, mes frères bien-aimés, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » C'est intéressant de voir que Paul n'use pas de son autorité apostolique ici. Paul ne veut pas créer un nouveau légalisme. Paul s'adresse au cœur des chrétiens de Rome et il leur dit, je vous appelle à avoir une vie consacrée, purifiée à 100% pour le Seigneur. Et le fondement de cette consécration totale, radicale, c'est les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Pendant 11 chapitres, Paul expose l'amour de Dieu pour l'être humain rebelle. Pendant 11 chapitres. Et si tu suis bien Paul, t'as le cœur qui fond après ces 11 chapitres. Et là, Paul il dit, sur la base de cet amour que Dieu a eu pour toi, je t'invite à offrir ton corps. Donne ton corps au Seigneur, ce véhicule de ton cœur. Le corps est le véhicule sur la terre du cœur. Tu as donné ton cœur déjà au Seigneur. C'est ça que Paul aurait dit s'il avait été un petit peu plus explicite. Tu as déjà donné ton cœur au Seigneur. Maintenant, il veut ton corps aussi. Il veut ce véhicule dans lequel ton cœur se meut dans ce monde. Je veux ton cœur, je veux ton corps. Et j'aimerais vous partager un passage qui est sévère de la part de Jésus, mais combien instructif. Et je crois que lorsqu'on revient à ces passages-là régulièrement, ça nous prévient, peut-être pas parfaitement et tout le temps, mais ça nous prévient de tomber dans un pseudo-christianisme en 2010, dans un faux-christianisme qui devient une forme de religion, un genre d'évangile biaisé et dilué, mais un évangile, mais pas l'évangile que Christ est venu annoncer. Jésus dit à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2, 4 et 5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Jésus fait une réprimande à l'église. Et je crois qu'il y a des fois où Jésus me dirait ça, « Hugo, j'ai un problème avec toi aujourd'hui, tu as abandonné ton premier amour. » Tu as oublié mes compassions. Tu as oublié à quel point j'ai donné ma vie, à quel point le prix est incalculable pour te sauver, pour te racheter, pour faire de toi un enfant. Tu as oublié ça, Hugo, et tu es tombé dans la routine et tu fais les choses religieuses par habitude. Le Seigneur est en train de dire à l'église des fêtes, je veux ton cœur. Je suis jaloux et je ne veux pas partager la place qui me revient avec personne d'autre, avec rien d'autre. Jésus est profondément jaloux, une sainte jalousie. Et la solution que Jésus donne à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Prends le temps de réfléchir à quel point tu m'aimais passionnément, à quel point tu ne faisais pas les choses par religiosité ou par routine, mais motivé par un amour profond, intense et entier pour moi. Souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé? » Après ça, il dit, va voir le psychologue, il va te prescrire des pilules, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit après Jésus? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Puis après ça, va chialer contre les pasteurs, c'est ça? Non. Va chialer contre ta femme, ton patron, ta situation économique, le bobo que tu as dans le dos, non. Il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Repens-toi. » C'est pas compliqué. « Repens-toi. » Et en grec, le terme « se repentir », c'est un changement de pensée. C'est pas un changement de pratique initialement, c'est un changement de pensée. « Métanoïa. » Changement de ce qu'il y a en dedans de toi, ton esprit. Change ta façon de penser. Reviens à ce premier amour que tu avais pour moi. C'est ça l'appel à la repentance. Lorsque tu te repens, tu reviens à ce premier amour que tu as eu pour Jésus un jour. C'est ça que je fais quand je me repens. Je ne me repens pas juste de des mauvaises pratiques. Je me repens d'être refroidi, d'avoir abandonné, pas d'avoir perdu. Hein? Ce n'est pas ça que Jésus dit. Dis pas, tu as perdu ton premier amour. J'ai perdu mon premier amour. Non, non, Jésus dit, t'as abandonné. C'est pour ça qu'il parle de repentance. Repens-toi. Et là, pratique tes premières œuvres. Quand le cœur, le moteur va être bien chaud, là, ouvre la machine, mon homme, et serre-moi de tout ton cœur. Mais premièrement, réchauffe ça, cette machine-là un peu. Réchauffe ton cœur. Pratique tes premières œuvres. Et là, Jésus donne un avertissement sévère. Sinon, si tu ne fais pas ça, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Wow. Jésus a dit aux chrétiens, vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. S'il y a un groupe d'individus sur la terre qui brille réellement, c'est les chrétiens. Et là, Jésus dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier. La lumière ne brillera plus. Je vais confier cette mission à quelqu'un d'autre si tu ne fais pas la job. Alors moi, je prends ça au sérieux. Ce n'est pas pour toi, là, mais si tu aimes le Seigneur, tu prends ça au sérieux. Mais j'aime ce texte qui est sévère de Jésus parce qu'il me présente une solution qui est à ma portée, qui est accessible. « Ah, Seigneur, je ne suis pas capable. » Non, non, Jésus ne dit pas que tu n'es pas capable. Il dit « Je l'ai mis le cœur nouveau en dedans de toi. » Le nouveau moteur là, réformé, un cœur divin, je l'ai mis en dedans de toi. Tout ce que je te demande, c'est de le laisser chauffer. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Le mot « souvenir » ici en grec, « souviens-toi », vient d'un mot grec qu'on a utilisé pour parler de la mémoire ou de l'amnésie. Est-ce que ça se peut que comme chrétien, je sois devenu un amnésique spirituel? Je suis devenu un amnésique spirituel. Mon niveau d'intensité là, dans la foi est à peu près à 50 % ou à 25 ou à 70. Si c'est le cas, je suis devenu un amnésique spirituel. J'ai mis en oubli, comme Pierre dit, la purification de mes anciens péchés. Je suis un amnésique spirituel. Mais la solution est à ta portée. Jésus dit, repens-toi, souviens-toi, médite sur mes compassions. Viens réchauffer ton cœur dans la parole de Dieu. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Merci Seigneur. Merci, ça ne coûte rien. Ce n'est pas des consultations à 75$ de l'heure. Ça ne coûte rien. Réchauffe ton cœur. Comment tu vas le faire? En méditant les compassions de Dieu. Et lorsque j'arrive dans Romains 12, 1, c'est ce que Paul fait. Il dit, sur la base des compassions de Dieu, je vous exhorte à vivre une vie entièrement consacrée pour le Seigneur. Peut-être que ce matin, je suis en train de parler et tu dis « Aïe, 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 Hugo, c'est facile, ton frère est pasteur. » Puis je ne sais pas, quel genre de mensonge qu'on peut véhiculer. Là. Il y a quelqu'un qui nous disait en fin de semaine, Judith, elle nous disait « Votre mère, elle doit être comme « Wow! » Ceux qui ont connu ma mère et qui priaient pour nous autres, on était vraiment des tout croches, nous deux, hein? On était vraiment des tout croches. Quand Yannick parlait tantôt, j'avais peur qu'il parle trop. Là. Quand vous avez regardé Hugo en avant, il disait « Oh, arrête, t'as parlé 10 ans, pas trop. » On était vraiment des faillés, nous deux. Des vrais faillés. Mais Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de pratiquer ça. Réchauffer notre cœur le matin dans la parole de Dieu. Le matin, je remercie Jésus. Avant de sortir de mon lit, souvent, je remercie le Seigneur d'avoir fait de moi son enfant. « Merci Seigneur, je suis ton enfant. T'as payé un prix incalculable pour me racheter. Ah, oh, je suis peut-être pas riche, peut-être pas grand, peut-être pas fort, comme disait Jean-Pierre Ferland. Mais Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. Tu m'as racheté de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes pères par le sang précieux de Christ. » Tu m'as racheté, tu n'as pas épargné ton fils pour moi. Wow! Je sors du lit, je veux vivre à 100% pour le Seigneur. Je ne sais pas vous autres. Là. C'est ça que ça fait dans mon cœur. Quand le matin, je prends le temps de méditer sur les compassions de Dieu, le feu est pris dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, je veux vivre pour toi. Pas avec un cœur partagé, sans demi-mesure, mais à 100% pour toi. Parce que toi, tu n'as pas calculé, tu n'as pas été cheap. Quand c'était le temps d'aller à la croix pour moi. Tu n'as pas dit, oh, finalement, un matin, là, ça ne me tente pas. Je n'irai pas sur la croix. On va remettre ça plus tard, papa. Non, Jésus n'a pas été cheap. Dieu n'a pas été cheap. Il n'a pas épargné son propre fils pour moi. Tourne avec moi dans Romains 1, s'il vous plaît. On va survoler ces compassions de Dieu. Romains chapitre 1. J'aimerais peut-être juste comme jeter un petit peu d'eau, un peu de ces compassions de Dieu. Romains 1, 18. la colère de Dieu. Ego, les compassions, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Moi, j'étais comme ça. Moi, je retenais la vérité de Dieu captive. J'avais mis cette vérité de Dieu dans une petite boîte, puis je l'avais garrochée au fond de mon tiroir. Pendant plusieurs années, j'ai retenu la vérité de Dieu captive. Je n'ai pas médité. Et ça, c'est toi et ça, c'est moi. Et si tu as besoin d'être convaincu, lis le reste cet après-midi. Ta lecture dominicale, Romains, lis Romains 1, 18 jusqu'à 3, 20. Lis ça cet après-midi. Tu vas te retrouver là-dedans, c'est sûr. Si tu ne te retrouves pas, tu n'es probablement pas encore un enfant de Dieu. Tu vas te retrouver là-dedans. Paul établit pendant deux chapitres et demi la culpabilité universelle. Toute bouche est fermée et tout le monde est reconnu coupable. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et quand tu viens au Seigneur, tu réalises à quel point tu es corrompu, à quel point tu es coupable, à quel point tu mérites juste le châtiment éternel. Et que là, tu lis le verset 21. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça les compassions de Dieu. Tu es coupable, corrompu, pécheur, tu mérites juste l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, alors qu'à cause de ton péché, tu étais séparé de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle tu existes, c'est de jouir et de refléter la gloire de Dieu, mais à cause du péché, tu es séparé de ça, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu as perdu absolument et totalement ta raison d'être. Car tous ont péché et sont privés, pas d'une bonne santé, pas d'un compte en banque bien rempli, pas d'un conjoint parfait. Ils sont privés quoi? De la gloire de Dieu. Et Paul ajoute au verset 24, ils sont gratuitement justifiés. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te prend, il lave dans le sang de l'agneau, c'est une image, vous comprenez? Et là, il te réintroduit dans la gloire. Cet endroit-là où tu as été créé pour ça, tu revis dans ce milieu-là. L'image qui me vient en tête, moi, c'est un poisson qui est dans le désert. Il est sec, sec, sec. Il essaie d'avoir un peu d'eau. Il trouve juste du sable. Et là, quelqu'un le prend puis il le remet dans l'océan. Bang! Résurrection, mon ami. Enfin, je peux vivre. Quand tu viens à Christ, c'est ça qui se produit. Tu es mort, tu es sec dans le désert, mon ami. L'environnement vital dans lequel tu as été conçu, pour lequel tu existes, t'en es privé. Tu es complètement privé de la gloire de Dieu. Et quand tu viens à Christ, tu es réintroduit dans la gloire de Dieu. C'est pas formidable, ça? Ça vaut mieux que des milliards de dollars. Ça vaut mieux qu'une épouse parfaite, qu'une église parfaite, que des pasteurs parfaits, un patron parfait, un gouvernement parfait. Man, c'est la gloire de Dieu. Tu retrouves ton environnement vital. Ça, c'est le début. C'est juste le début des compassions de Dieu. Je vais défiler d'autres choses avec vous parce que le temps file. Romains 5, 6 à 11. Paul nous dit, vous pouvez tourner, mais je vais aller vite. Romains 5, 6 à 11. Paul nous dit, alors qu'on était des impies, des ennemis de Dieu, Dieu a donné son Fils pour nous. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Wow! Romains 5, 5. Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça, c'est pas un genre d'amour sentimental platonique, là. C'est que je me sais aimé de Dieu. Il y a comme une valve sur mon cœur, Dieu l'ouvre, là, puis il arrive avec des milliards de gallons. Ça, c'est son amour. Ça sort. Dieu verse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu te rappelles la croix, tu dis, Dieu m'aime vraiment. Dieu m'aime vraiment. Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains 8, 9, Paul nous dit qu'on a l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tu as un cœur nouveau, tu as de nouvelles affections en dedans de toi, tu aimes Dieu maintenant réellement pour qui il est, pas pour ce qu'il peut te donner. Ça, c'est la religion. Les gens ont une genre d'affection pour Dieu, pour ce que Dieu peut faire pour eux. Mais quand tu as connu l'amour de Dieu, tu aimes Dieu pour ce qu'il est. Ce n'est pas des compassions de Dieu, ça. Son esprit vit en toi. Dieu est venu faire sa demeure en toi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde un panorama naturel incroyable, je dis « Wow, Dieu est grand! » Quand je regarde ma femme, je dis « Wow, Dieu est beau! » Et là, je réalise que ce Dieu est venu vivre en dedans de moi. Et ce Dieu produit dans mon cœur de nouvelles affections. Avant, je n'aimais pas Dieu. Moi, je n'aimais pas Jésus. Je vous le garantis, je n'aimais pas Jésus. Peut-être que toi, tu étais comme un genre de bon Québécois catholique. Puis, tu sais, tu disais que tu aimais Jésus, mais probablement que tu voulais te servir de Jésus à quelque part. Demande au Seigneur va révéler les pensées secrètes de ton cœur. Ce que tu avais dans ton cœur, tu aimais Jésus parce qu'il t'apportait quelque chose. Tu voulais te servir de lui comme un accessoire, comme Marie, comme Bouddha, comme Allah, comme le petit génie dans la lampe. Tourne avec moi dans Romains 8 maintenant. J'aimerais juste lire un beau passage avant de poursuivre. Wow! Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc? Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu peux-tu être plus que vainqueur? Quand tu es vainqueur, il me semble que c'est comme le top. On a plus qu'une médaille d'or. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. T'es scellé dans l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Ça va mal dans ta vie? Ça m'arrive aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On retourne aux compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Romains 12, s'il vous plaît, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique, spirituel. Quelle exhortation! Hey, c'est l'action de grâce! Je vous encourage à donner pour le projet d'Action de grâce. Mais le Seigneur veut plus qu'un chèque. Le Seigneur veut plus qu'un chèque. Paul est en train de dire, sur la base de l'amour que Dieu a pour toi, ses entrailles que Dieu a déversées sur la terre, offre ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, comme juste correct. C'est juste normal de vivre à 100% pour Jésus. Si tu trouves ça dur, tu as besoin de revenir. Apocalypse 2, souviens-toi d'où tu es tombé. Oh Seigneur, tu as payé un tellement grand prix pour mon âme. Oh Seigneur, je me repens de la tiédeur de mon cœur et je t'offre mon corps, ce véhicule de mon cœur. Je te l'offre, Seigneur. Et je veux que ce soit des instruments de justice dans tes mains pour faire une caresse à ma femme, pour lui dire une parole d'encouragement, pour regarder les bonnes choses, pour servir un frère, une sœur, pour aller au travail et avoir une super attitude pour te glorifier, Seigneur. Je t'offre mon corps aujourd'hui. Et Paul dit que ce sacrifice est saint. Il est agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Ici, on ne fait pas la promotion des kamikazes, là, puis des fous qui se font exploser au nom de leur Dieu. On fait la promotion ici d'un sacrifice vivant. On ne veut pas que tu te fasses sauter. J'ai dit, je veux que tu sois sauté pour moi, mais je ne veux pas que tu te fasses sauter. Je veux que tu t'exploses de joie en moi. Maintenant que je t'ai réintroduit dans la gloire de Dieu, que je te destine à jouir un jour, parfaitement, sans aucune entrave de ma gloire, je te demande juste de façon raisonnable, de façon logique et spirituelle, donne-moi ton corps aujourd'hui. Faites ça le matin avant de vous lever, avant que votre pied frappe le sol. Dites, Seigneur, je te donne mon corps aujourd'hui. Je vais mettre un sourire sur ma face à claque que j'ai tous les matins, puis qui est tellement désagréable pour ma femme puis mes enfants. Je vais mettre un sourire parce que je réalise à quel point Dieu m'aime, puis ça déborde, ça sort de moi. Bonjour, mon amour, comment ça va? Je t'aime. Un beau hug à tes enfants. Bonjour, monsieur le patron, comment ça va ce matin? Hey, t'es bien de bonne humeur. Oui, à cause des compassions de Dieu. À cause des cons. De quoi tu parles? On va dîner ensemble ce midi. On va dîner ensemble. Et Paul dit que ça va être un culte raisonnable. En grec, c'est logikos, duquel on a le mot logique. Logique. Pierre, c'est drôle parce que second, dans 1 Pierre 2, verset 5, verset 2, il traduit ça comme la nourriture spirituelle, le lait spirituel. Il est difficile un peu à traduire le mot, ça fait référence au langage, au raisonnement. Mais en même temps, ça a un sens spirituel. Paul est en train de dire, si tu donnes ton corps au Seigneur, parce que tu lui as déjà donné ton cœur, tu as compris les compassions de Dieu et tu t'en délectes, eh bien, Astor, fais juste comme offrir ton corps. Dieu aime ça. Tourne avec moi dans Hébreux 5, s'il vous plaît. Ah, Hébreux 10, je m'excuse. Verset 5. Hébreux 10, verset 5. L'auteur aux Hébreux dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il parle de l'incarnation, Yannick en parlait ce matin, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle parole de Jésus. Moi, je veux être comme Jésus. Toi aussi, hein? Tu veux être comme Jésus. Ici, l'auteur aux Hébreux nous décrit Jésus lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il est devenu ce petit embryon. Il a dit au Père, tu ne veux pas de sacrifice animal, tu ne veux pas d'holocauste animal. Tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps. Ce n'est pas Yark le corps, c'est Dieu qui l'a créé. Tu m'as formé un corps. Et il ajoute, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et pour Jésus, on peut-tu le dire que son corps, il l'a vraiment donné à Dieu? Moi, quand je regarde à la croix, je pense à Jésus. Son corps était vraiment cloué sur une croix. C'est un culte raisonnable, logique. Romains 12, 2, je prends juste 2-3 minutes pour compléter. Romains 12, 2, revenez avec moi, s'il vous plaît. Lorsque je vais méditer les compassions de Dieu, lorsque je vais méditer l'évangile de Christ, ça va être comme une puissance transformatrice dans ma vie. La réponse naturelle, Seigneur, je te donne mon corps. Fais ce que tu veux avec. Il y a des besoins à l'église, moniteur, monitrice. Je suis pas bon. Je me sens comme Moïse. J'ai la langue liée. J'arriverai pas à dire des choses intelligentes. Mais regarde, je te le donne quand même. Fais quelque chose si tu veux avec ça. Je te donne mon corps. Ça va être comme une réponse naturelle. Tu vas venir à l'église et tu vas venir pour donner. Seigneur, je viens donner. Là. Qui je peux aider un matin? Qui a besoin d'une main autour de l'épaule puis qui a besoin d'encouragement? Et qu'est-ce que l'Évangile va produire au verset 2? « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très intéressant, l'apôtre Paul utilise ici des mots qui sont en grec à la voix passive. Ce n'est pas quelque chose que je fais vraiment. C'est plutôt qu'en offrant mon corps, je m'abandonne entre les mains du divin potier. Je suis malléable. Je m'abandonne entre tes mains. « Ne vous conformez pas » serait mieux traduit par « Ne vous laissez pas conformer par le siècle présent. » Le mot grec « sous-schématizo », on a le mot « schéma » avec « sous-schématizo ». Laissez-vous pas modeler par le monde, que le monde ne trace pas le schéma de ce que ça doit être un chrétien. Tes collègues au travail, tu sais, ils ont mis de l'argent. Je fais des blagues, ils sont dans un petit lifting, tu sais. Ils ont mis pas mal d'argent. Oh, la nouvelle auto, mais tu connais pas toutes ces dettes, la nouvelle maison, l'emploi du temps. J'ai pas de temps pour l'église, je suis tellement occupé. Regarde, tous les soirs, c'est le baseball, le hockey, le soccer, l'aérobie. À dimanche, ah, je pourrais pas être là, tournoi de hockey pour mon gars. Puis après ça, toujours des raisons. Ça, c'est le monde, ça. Un chrétien, ça a du temps pour Dieu. Ça fait du temps dans son horaire pour Dieu. J'ai du temps pour Dieu. Ça commence chaque matin par la grâce de Dieu. J'offre la meilleure partie de mon temps à Dieu, les prémices de ma journée. Ne vous laissez pas modeler, schématiser par le monde, mais au contraire, soyez transformés. Métamorphosé en grec, métamorphose. Soyez métamorphosé, pas physiquement. Notre corps est voué à la destruction. On vieillit. Probablement que vous avez trouvé que j'ai changé, c'est vrai? Hein? Vous avez trouvé que j'ai... Non? Pas. En tout cas, on change. On change. Mais il dit, laissez-vous transformer, métamorphoser par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-vous métamorphoser par le renouvellement de l'intelligence. Et tu sais qu'est-ce qui va se produire à la fin du verset? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu offres ta vie au Seigneur, là, les réponses vont venir assez rapidement. Des réponses, c'est là où quand on donne notre vie au Seigneur à 100%, les réponses viennent assez rapidement. On dirait que les dilemmes s'atténuent. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et là, vous allez vivre des vies tellement misérables. Là, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu souffres, puis que tu te fasses rejeter par tout le monde, puis que tout le monde t'haïsse au travail. Puis, c'est ça? Ce qui est bon, agréable et parfait. Qui veut qu'à tous les jours, sa vie goûte bon? Levez vos mains. Qui veut qu'à tous les jours, sa vie goûte... c'est bon. Qui veut que sa vie soit agréable à tous les jours? Qui veut avoir une vie satisfaisante, parfaite, complète? Moi, je veux ça. Mais il ne faut pas que tu te laisses dicter par le monde comment vivre cette vie. Il faut que tu te laisses métamorphoser ici par le Seigneur. par la parole de Dieu, par ses leaders qui vous enseignent semaine après semaine, les hommes de Dieu que Dieu a mis ici, à travers une méditation personnelle de la Bible. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche d'Action de grâce, pourquoi pas offrir notre corps au Seigneur? J'aimerais vous inviter à vous lever. Si vous voulez offrir votre corps au Seigneur, levez-vous, s'il vous plaît. Je vais prier. Si vous avez à cœur d'offrir vos corps au Seigneur, levez-vous, s'il vous plaît. Et dites dans votre cœur, comme Jésus, « t'a voulu ni sacrifice ni offrande, Seigneur, mais tu m'as formé un corps. » Et aujourd'hui, en ce dimanche d'Action de grâce 2010, je renouvelle cette offrande de mon corps, Jésus. Je te donne ma vie sans réserve. Et Seigneur, je suis convaincu qu'en expérimentant cette métamorphose de l'esprit par la parole de Dieu, je vais savourer une vie qui est bonne, agréable et parfaite, puisqu'elle va être en toi, dans ta gloire et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
En fait, restez debout, on va chanter. Ah.